OK, on s'en va rejoindre notre journaliste Annie Guillemette qui couvre l'enquête publique de la coroner là, sur le CHSLD Heron. Bonjour Annie.
Bonjour Bernard.
Alors, qu'est-ce que tu as entendu aujourd'hui?
Ben écoutez, on a appris que les gens qui se sont portés volontaires pour aller aider les patients Heron lorsqu'on a commencé à avoir beaucoup de cas n'étaient à peu près pas protégés contre la COVID-19. Ces gens-là étaient des soignants. Il y a une infirmière qui a témoigné ce matin. Et elle a dit que lorsqu'elle s'est présentée le premier samedi matin, on lui a donné une paire de gants et elle devait faire la journée avec. On lui a dit, tu as juste à nettoyer tes gants avec de l'alcool à friction entre les patients, mais on n'en a pas plus. Elle avait même fourni son propre masque pour se protéger, pour protéger ses patients, parce que ça non plus, on n'en avait pas. Bref, il n'y avait pas de matériel, il n'y avait pas de consignes, il y avait énormément de bénévoles qui s'étaient portés volontaires, sauf que personne ne connaissait les patients. Elle a qualifié l'organisation des soins, Bernard, de gros bordel. Malheureusement, il y a une médecin qui est encore à la barre présentement, la docteure Orly Herman, qui, elle, avait des patients à Heron, et elle a tout confirmé ce que l'infirmière a dit. Elle a dit, écoutez, il n'y avait pas de protocole, il n'y avait pas d'équipement. Lorsqu'on a détecté le premier cas à Heron, le directeur général s'est rendu chez elle, chez la médecin, pour lui emprunter, entre guillemets, une boîte de masques, parce qu'il n'en avait pas pour donner à ses soignants pour protéger ses patients.
Le directeur général du CHSLD?
De Heron.
Donc, il y en avait un directeur général? Parce qu'on on a l'impression, depuis le début de cette histoire-là, que c'était pas géré, qu'il n'y en avait pas vraiment d'équipe de gestion?
En fait, il y avait des propriétaires, puis il y avait un directeur général qui était là pour gérer à peu près tout. Ce dont il n'y avait à peu près jamais au cours des dernières années, c'est une directrice ou un directeur des soins, donc quelqu'un qui est un infirmier ou une infirmière diplômée et qui gère l'organisation des soins. Ça, il n'y en a à peu près pas eu dans les dernières années à Heron. Il n'y avait pas de plan pour rien. Il n'y avait pas. On a parlé des manques de serviettes un peu plus tôt cette semaine. Il n'y avait pas beaucoup d'équipement dans ce CHSLD-là qui était privé, là, on le rappelle.
Ouais, ouais.
Donc, la médecin qui allait voir ses patients avait même déjà demandé de l'achat d'équipement. Elle avait même demandé à la direction d'embaucher des gens parce qu'elle trouvait que ça n'avait pas de sens comment on prenait soin des patients là-bas. Et donc, elle a dit même que avant le gros pic de la pandémie, tout le monde se préparait au CIUS. Elle gère aussi un GMF. Elle dit, j'avais plein de réunions pour préparer le GMF en vue de la pandémie, en vue de la première vague. Et jamais on a abordé la préparation dans les CHSLD. Donc, pour elle, là, c'était pas une surprise du tout, cette déroute-là, ce chaos-là, parce que personne n'avait préparé de cadre, même pas le CIUS. Elle a même dit que la collaboration entre les gens du CIUS et la direction en place, ou le semblant de direction qui était là, Heron, était vraiment mauvaise. Les gens du CIUS arrivaient là, on leur disait rien, on leur donnait aucune information. Donc, ils ne savaient pas comment organiser les soins, ils ne savaient pas comment diriger leurs troupes, qui étaient pourtant nombreuses, là. Il y a plein de gens qui se sont portés volontaires pour aller travailler là, mais on ne savait pas comment les orienter. Ce qui fait que les patients, ce sont eux, au bout du compte, qui payaient pour ça. Et on a souvent parlé de manque de personnel, de problèmes à ce niveau-là. On a eu, Bernard, un autre exemple, mais vraiment flagrant aujourd'hui. Il y a une dame, elle s'appelle Karen Saylor, c'est la fille d'une résidente. Elle est venue dire qu'un bonsoir, elle parlait à sa mère très souvent dans la journée, et sa mère l'a appelée à 23 heures le soir en lui disant, « Est-ce que tu peux faire quelque chose? J'arrête pas de sonner. Je suis encore dans mon fauteuil roulant, ils sont jamais venus me mettre au lit. » Et là, la fille a fait plusieurs appels sans obtenir aucune réponse. Elle a fait le 911 pour envoyer les policiers sur place pour qu'ils fassent des pressions pour qu'on puisse mettre la dame au lit. Et on dit là, qu'elle s'est couchée probablement vers 1h du matin, cette dame-là, qui était très âgée, qui était bien sûr malade puisqu'elle habitait dans un CHSLD.
Ouais.
Et les policiers ont dit à cette dame-là, écoutez, on a trouvé dans tout l'édifice, je vous rappelle qu'on logeait à peu près 140 patients, deux infirmières. C'est tout.
Aïe. Est-ce qu'on sait si les propriétaires vont témoigner? Sais-tu si...
J'ai pas la liste exhaustive encore des témoins.
En tout cas, on espère.
Leur avocat est là, par exemple.
Ah,
et
oui,
il veille au grain, ça, je peux vous l'assurer.
Bon.
Et la grande discussion, c'est est-ce que le CIUS est arrivé avant? Est-ce que le CIUS a, entre guillemets, mis ses culottes quand il est arrivé? parce qu'on savait que ça ne roulait pas rondement dans ce CHSLD-là. C'est une des grandes, grandes discussions qu'il y a entre les avocats, mais qui fait aussi partie des inquiétudes et des questionnements de la coroner Jeanne Kamel.
C'est très, très clair. Alors, merci d'être là, Annie Guillemette.
Au revoir.